Semaine 45, salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, sommaire.
5 petits articles, hein. On sent que les journalistes sont un peu au repos en ce moment.
C'est l'automne. Next Impact, Health Data Hub, le sombre diagnostic du Dr. Kneel, un article de Marc Ress.
Alors sombre parce que nos données de santé, les données de santé de tous les Français sont en ce moment aux États-Unis. Il y a Microsoft qui les a pris en otage.
Mais il n'y a pas de problème puisque le Conseil d'État a dit que c'était bon.
Oui, n'est-ce pas? Mais ça n'empêche que là, les institutions sont en train de faire remarquer « Oui, on va peut-être rapatrier tout ça en Europe, il y a un moment donné ». Quand même, nos lois sont quand même mieux maîtrisées que les lois des États-Unis.
C'est un peu gros quand même. Le monde informatique, la banquise, cherche Startup Open Source en Nouvelle-Aquitaine, un article de Maryse Gros.
Alors la banquise, c'est quoi? Tu te rappelles? On a déjà parlé. Une association d'entreprises, une sorte de pépinière. Et effectivement, ils cherchent à faire monter des entreprises dans le logiciel libre. Donc c'est des gens bien.
Oui, en tout cas, ils ne peuvent pas être complètement mauvais. ZDNet France, logiciel libre, disparition de Laurent Séguin, ancien président de la FUL, militant et musicien, un article de Thierry Noisette.
Alors c'est très triste, hein. Donc Laurent Séguin, on l'a rencontré dans différentes activités du logiciel libre. La FUL, c'est l'association française des utilisateurs de logiciel libre, mais il ne faisait pas que ça. Alors moi j'ai découvert, pour le coup, qu'il avait produit pas mal de musique, et de musique intéressante.
J'en ai écouté.
Il y en a qui sont passés à Libre à vous, c'était assez sympa, donc on est désolé qu'il nous ait quittés.
Voilà, à 44 ans, hein, ce qui est quand même très jeune. Donc condoléances à tous ses amis, sa famille et tous les gens qui ont pu le connaître. Le Monde.fr, crypto-monnaie, la Chine menace le cœur de l'économie mondiale, l'Internet de l'argent, un article de Vincent L'Orphelin et Christian Saint-Etienne.
Alors l'Internet de l'argent, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais là, il se trouve que c'est le vieux sujet des crypto-monnaies, les bitcoins, par exemple, et toute la technologie qu'il y a autour, donc la blockchain. Et là, la Chine a l'air de dire, allez, on va se lancer sur la blockchain, mais une blockchain chinoise. Et avec ça, on va détrôner, en tout cas, ça a l'air d'aller dans cette direction, on va détrôner le dollar. Et ça, ça peut effectivement, s'ils y arrivaient, changer l'économie mondiale. Parce qu'aujourd'hui, le dollar reste le sang qui fait fonctionner l'économie.
Il y a des gens qui disent qu'il y a une nouvelle guerre froide qui a commencé entre la Chine et les États-Unis. Et donc, ce serait effectivement une belle manœuvre pour aller dans cette direction. La monnaie, effectivement, c'est un instrument de pouvoir considérable. Et les États-Unis profitent abondamment du statut du dollar. Siècle digital, numérique responsable, où en sont les éditeurs de logiciels et de SaaS? Un article de Brice Schwartz.
Alors SaaS, c'est Software as a Service. Donc, c'est un petit peu ce qu'on appelle l'informatique en nuage. Et effectivement, il y a pas mal de choses intéressantes sur le sujet, mais il y a des problématiques écologiques. Donc certes, on peut travailler mieux avec les logiciels, mais souvent, ça coûte cher écologiquement, ça coûte cher à produire, ça coûte cher à faire tourner en électricité, en matériaux. Donc la promesse d'efficacité accrue est un peu compliquée. Ça reste un sujet vaste, hein, qu'on va sûrement encore aborder, je pense.
Oui, effectivement, il y a plein d'initiatives dans le domaine, et c'est un sujet essentiel.
De quoi tu veux parler cette semaine?
Cette semaine, je voulais qu'on soit productif.
Tu veux être productif? Tu veux parler de fric, je le sens.
Indirectement, oui. Je pensais que c'était intéressant de parler de productivité et de dire à quel point la productivité, c'est quelque chose de bien et qu'il faut souhaiter.
Ouais, tu veux augmenter les cadences, tu veux faire bosser plus les travailleurs, je le vois dans tes yeux.
C'est ça, les bosser bande de feignants. Non, alors la productivité, on le rappelle économiquement dans le principe, c'est l'idée de qu'est-ce qu'on est capable de produire au sens général avec des moyens qu'on a. Donc on va mettre un certain effort et obtenir un résultat plus ou moins important.
C'est souvent ce qui est calculé avec les PIB, PNB.
Oui, alors PNB aujourd'hui, on ne l'utilise plus trop, mais le PIB. Donc souvent, au niveau économique, quand on va parler de la productivité d'un pays, on va prendre le nombre d'heures travaillées estimées par les stats et avec le PIB. Et donc du coup, effectivement, on a plein de critiques qui disent « c'est un truc d'exploitation, où on veut que les gens bossent plus », qui est encore centré sur le PIB, qui est un indicateur très critiquable, qui va vers plus de pollution, vers plus de capitalisme, etc. Mais on peut voir la productivité sous un angle complètement différent, et te dire que tu veux être le plus efficace possible pour atteindre les buts qui sont importants pour toi.
Mais là, les buts qui sont importants pour ce genre de sujet, c'est l'argent. Est-ce que c'est vraiment important?
C'est pas que l'argent, ça peut être le temps de travail, par exemple. Historiquement, il y a quelques siècles, on avait 90% au minimum de la population qui travaillait dans les champs. Aujourd'hui, on a plein de gens qu'on arrive à sortir de cette activité de production pure et dure, qui deviennent profs, qui deviennent médecins, et ce qui permet d'élever et de soigner nos enfants. Enfin, moi, j'en ai pas, toi non plus. mais ceux d'un certain nombre de nos auditeurs. Et on trouve ça plutôt bien de se dire qu'ils ont ça plutôt que d'aller bosser à 6 ans dans les champs et de mourir à 13.
Alors peut-être qu'on n'a plus tout le monde qui est dans les champs, mais on a aussi plein de chômeurs, hein. C'est très négatif.
Alors effectivement, et c'est cette question de comment on fait ce partage des gains de productivité. Alors, l'économie des entreprises, etc., a fait des progrès considérables ces 40 dernières années.
Notamment grâce à l'informatique.
Notamment, oui, effectivement. Et on a eu voilà, des doublements, triplements de productivité, hein, c'est énorme. Mais pour des raisons politiques, à partir des années 80, on a arrêté ce qu'on appelait le partage des gains de productivité, qui était dire, bah, du coup, puisqu'on arrive à être plus efficace, on partage ces gains. Alors ça peut être soit avec de l'argent, soit dire, bah, on réduit le temps de travail, par exemple. C'est une autre façon de partager les gains de productivité. Tout l'enjeu politique est là où bah, les travailleurs se sont bien fait avoir depuis une quarantaine d'années, c'est que ces gains ont été entièrement absorbés par entreprise et capital, et on voit les résultats aujourd'hui.
Je vais me faire l'avocat du diable, mais bon, bah, des gars comme Jeff Bezos ou Bill Gates, c'est eux qui transforment la planète, et c'est grâce à cet argent qu'on leur donne les moyens de changer le monde. Regarde Elon Musk. Elon Musk, il va nous emmener sur Mars grâce à l'argent qu'on lui donne, nous, la société humaine.
Alors, il va peut-être s'emmener sur Mars pour y mourir, mais le truc, c'est qu'il la transforme en la détruisant, ils prennent du pouvoir. Et effectivement, on a le nombre de milliardaires dans le monde, y compris en France, qui a explosé. On a certains de nos milliardaires, par exemple, qui ont fait plus de 20% de fortune en un an. Enfin, c'est des trucs complètement dingues.
Et je pense qu'avec le Covid, ça a encore s'amélioré pour leur
Jeff
fortune.
Bezos, oui, lui, c'est la machine à cash. On peut avoir des discussions à l'infini sur personne n'a besoin d'avoir autant d'argent pour vivre, même très confortablement.
Ça l'aide à mieux dormir parce que le matelas est plus doux. Tu comprends?
C'est ça. Et de fait, il y a plein de choses, de mécanismes, on ne va pas rentrer en détail là-dessus, bon, d'une part parce que je ne suis pas expert, mais il y a plein de choses, de mécanismes qui se mettent en place où il y a de la pauvreté, où il y a de la destruction de l'environnement, puisqu'on est dans un modèle imposé qui va pousser les gens à consommer toujours plus, toujours plus, toujours plus.
Bah, on est dans un modèle de croissance.
Oui, si on peut appeler ça. Après, c'est toujours... Qu'est-ce que tu appelles la croissance? Qu'est-ce que tu appelles la réussite? Tu vois, enfin.
C'est la croissance économique, c'est la quantité d'argent qu'on va produire avec des biens qu'on va vendre.
Mais tout ça ne nous dit pas quel est le rapport avec l'informatique, parce que là, on parle de sujets qui sont quand même très, très éloignés. Donc, juste pour dire, vouloir la productivité, pour moi, c'est important, parce que ça veut dire que sur les choses qui nous importent pour nous, on veut essayer d'être plus efficace pour faire plus, autant qu'on peut, avec ce qu'on a. À l'April, c'est une association où Fred, qui est notre délégué général, est un fou furieux de méthodes et des méthodes de travail beaucoup plus efficaces à l'April que dans beaucoup de contextes professionnels où j'ai pu bosser.
Allez, vas-y, parle de ton passé, accuse, dénonce, raconte un peu ton patron en ce moment, comment il est, ça va être difficile pour toi.
Eh bien non, je ne le ferai pas, pas cette fois, mais voilà, enfin, on a, tout le monde connaît ça, dans le boulot, des gens qui roulent pour eux, des trucs où les gens font ça dans leur coin, partagent pas les infos. Dans l'informatique, il y a un certain nombre d'outils qui sont orientés vers la productivité et qui ont permis d'être plus efficaces.
En gros, quoi, tu penses à des gestionnaires de tickets, des outils qui permettent de stocker de l'information facilement?
Bah oui, les wikis notamment, qui permettent d'organiser l'information et à plusieurs de travailler ensemble. Les gestionnaires de tickets, donc c'est en fait un gestionnaire de tâches. On va avoir un outil, on va dire, voilà, il faut faire ceci, on peut l'affecter à une personne, on peut vérifier où ça en est, on peut décrire tout ce qu'il y a à faire précisément. Ça fait partie de la méthode pour que les gens puissent avoir une liste claire de ce qu'ils doivent faire, s'ils ont des questions, de pouvoir poser des questions, qu'on garde tout l'historique et d'avoir quelque chose de beaucoup plus efficace pour mener les actions qu'on a à mener.
Ça évite de ne pas oublier qu'il fallait remplacer le rouleau de papier toilette parce qu'on te l'a dit il n'y a pas longtemps. Bah non, il y a un ticket qui te l'indique.
Mais oui, oui. Et de fait, c'est des méthodes de l'informatique, mais qu'on peut parfaitement utiliser dans d'autres domaines, dans son milieu associatif, dans ses activités militantes, si on veut, pour être plus efficace tous ensemble.
Alors bon, moi j'ai un côté ingénieur, comme tu sais. Je vois une autre solution pour améliorer notre vie. C'est non pas d'augmenter la productivité, mais d'être sobre et d'enlever les besoins. C'est ce que disent souvent certains écologistes, c'est non, il ne faut pas améliorer les ampoules, non, mais il ne faut plus se réveiller la nuit, enfin avoir des activités de nuit, c'est plus facile de simplement profiter de la lumière du soleil, par exemple.
Oui, oui, sauf que le monde est hostile, et que si tu veux changer le monde, ça veut dire qu'il faut arrêter Bezos, il faut arrêter tout ce système-là, convaincre plein de gens qu'on va droit dans le mur et que le comportement et que la politique actuelle est suicidaire, et ça, tu ne peux le faire qu'en te confrontant aux autres. Donc, pour moi, ce truc de vivre à l'économie, ça marche si tu es dans un environnement qui ne veut pas ta mort.
Alors, sachant qu'en plus, en informatique, c'est un peu compliqué. Moi, là, je prône pour une autre église que la mienne. Non, moi, je veux de l'informatique plus efficace, je veux des serveurs plus importants, je veux pouvoir travailler encore mieux avec mes outils. Et donc, effectivement, la sobriété en informatique, j'ai un petit peu de mal. Hein. Moi, je veux des gros data centers.
Bah, après, c'est toujours cette question de qu'est-ce que c'est le mieux ? C'est parce qu'au final, tout le monde veut le mieux. Mais qu'est-ce que tu définis ? Si un jour, on a tout un truc qui dit le mieux, c'est quand on arrivera à dépenser moins d'énergie, à construire moins de matériel et à rendre quand même le service, et ben voilà, dans ce cas-là, tu courras peut-être, ou les prochaines générations d'ingénieurs seront super contents d'avoir trouvé l'astuce qui permet d'utiliser du vieux matériel, d'avoir développé le truc qui est beaucoup moins gourmand en ressources, qui consomme moins d'énergie, etc.
Alors moi, je veux dire un mieux aussi dans une autre direction, c'est la motivation. Je trouve que si on peut motiver les travailleurs dans les entreprises, les gens qui participent dans les associations ou dans le monde politique à faire les choses mieux, mais mieux pour eux, je trouve que ça, c'est intéressant en soi et que bah, ça va améliorer la qualité du travail et aussi la qualité de ce qui est fourni en résultat. Ça, c'est une motivation qu'on appelle la motivation intrinsèque, qui est souvent mis en opposition avec la motivation dite extrinsèque. Bah, par exemple, le fait qu'on ait un salaire à la fin du mois, c'est une motivation pour aller au travail, mais ce n'est pas une motivation très forte et tenable sur le long terme. On ne fait pas forcément le meilleur travail possible.
Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui vont au boulot pour avoir les sous, mais effectivement, tu vas bosser, tu vas faire le minimum syndical, comme on dit.
Ta seule motivation,
ta seule motivation, pourquoi, effectivement, essayer de trouver des meilleures astuces ou des choses comme ça. Après, sur cette question de la motivation, et pour revenir au libre, je pense que c'est un des trucs qu'on a dans le libre qui marche bien. C'est que les gens qui sont dans le mouvement, ils ont cette conviction de participer à quelque chose qui les dépasse, et donc ça donne du sens à leur boulot. Il y a des gens qui, dans leur coin, contribuent à un logiciel sur un truc technique, où ils ont les honneurs de personne, ils bossent, etc. Ouais, je pense qu'ils aimeraient bien avoir la reconnaissance,
éventuellement,
mais ils sont là quand même, malgré tout, et c'est ces gens-là qui font avancer les choses.
Et ça, ils sont motivés par ce qu'ils font en soi, et ça, je trouve ça admirable. Maintenant, il y en a d'autres qui sont motivés par d'autres délires, d'autres rêves. Bah, les start-upers, hein, tous ces petits jeunes qui bossent 70 heures par semaine sur un logiciel de gestion, je sais pas, de croquettes pour chiens, et qui vont être super motivés par ce qu'ils font, certes, mais aussi par une sorte de rêve un petit peu bizarre, une loterie.
J'ai lu un certain nombre de témoignages de jeunes start-upers qui sont un peu fait manipuler avec la personne qui monte la boîte et qui leur dit « Ouais, on est une équipe, on fait un super produit, on travaille ensemble, on est une famille. » Un jeune qui débarque sur le marché du travail va arriver là-dedans un peu naïf et va finalement s'apercevoir éventuellement que, bon, en fait, il n'est pas l'égal du patron, etc. Et le truc ultime, c'est quand la boîte fonctionne et qu'elle est revendue, il y a un certain nombre de gens qui peuvent s'investir à mort dans leur boîte en se disant que voilà, c'est super. Et puis au final, le patron se barre avec les millions et eux se retrouvent revendus à une grosse boîte quelconque qui éventuellement va les tuer parce qu'ils veulent juste le carnet de commandes, enfin les clients. De l'importance d'avoir toujours une démarche politique et de se dire voilà, je sais pourquoi je m'implique et je sais quels sont mes objectifs et je ne laisse personne me dicter l'idéal particulier, quoi.
Alors c'est vrai que là, dans ce cadre-là, des coopératives, ce serait un mécanisme intéressant parce qu'au moins, bah, on aurait tous une forme d'égalité entre nous dans la participation à un groupe, à un projet, et on pourrait bah, le voir de bout en bout et pas juste se le faire piquer parce que quand le patron d'une start-up se réveille et puis bah, il va faire à son petit jeune « bah non, t'es pas mon égal, c'est moi qui décide », bon bah là, le réveil est difficile, les étoiles dans les yeux s'envolent et puis on se réveille avec la gueule de bois et au chômage.
Effectivement, bah, c'est une leçon durement acquise, mais voilà, chercher la productivité, pour moi, ça reste quand même important. D'une part, parce que si on l'a fait une fois, on pourra le faire ailleurs, dans d'autres domaines où c'est réellement important et où on aura choisi de s'investir. Également, même si on est dans un contexte de boulot qui n'est pas hyper satisfaisant, il y a ce que Crozier appelait le contrôle de la zone d'incertitude. Alors, ça dépend du type de boulot qu'on fait, mais où c'est une zone où personne ne sait ce que tu fais vraiment. Et quand tu dis « ouais, là, j'ai pas le temps », eh ben, on te croit sur parole. Alors, c'est en général, plus tu montes la hiérarchie, plus c'est vrai. Et effectivement, quand tu bosses à l'usine, à la chaîne, t'es surveillé très près. Voilà. Et on sait exactement tout ce que tu fais. Il y a d'autres moyens d'avoir du contrôle de zone d'incertitude, notamment par l'absentéisme ou en faisant grève, par exemple. Mais toujours est-il que quand tu fais ça, et ça m'est arrivé dans le boulot, hein, je formais des gens. Il y a une femme qui fait un truc sur son ordinateur et qui fait ça de façon inefficace. Et donc, je lui dis, bah, vous pouvez faire comme ça, ça va plus vite. Elle me dit, oh, moi, je ne change pas, voilà, sous-entendu, je ne vais pas me mettre à travailler plus. Et je lui dis, bah, moi, je ne suis pas votre chef. Donc, si vous faites ça, vous pouvez faire 15 minutes de plus de Facebook, je m'en fous, mais au moins, vous aurez fait moins de trucs cons pendant votre journée. Donc, ça, c'est une autre façon de voir la productivité. Ça peut être bien pour se ménager du temps, hein, se ménager du confort dans son boulot, même si le boulot n'est pas super rigolo.
Dans tous les cas, ce qui serait bien, c'est de faire en sorte que les gens qui augmentent leur productivité en profitent eux-mêmes de plein de manières différentes. Hein, donc on n'oublie pas ce point-là et on essaye de passer dans une société un peu plus partageuse, un peu plus égalitaire. Ce serait quand même sympa.
Oui, alors moi, je pense que t'es un idéaliste. Mais bon, voilà. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Luc.
Salut.